Troisième heure, on va la terminer, bien entendu, avec Valérie Roberts, notre chroniqueuse culturelle. On va parler des 75 ans depuis le premier match de Jackie Robinson avec les Royaux de Montréal. Hein, faut pas l'oublier, Jackie Robinson, donc le premier joueur afro-américain dans les ligues majeures de baseball, mais c'est à Montréal. C'est à Montréal qu'il est venu jouer avant de faire le saut avec les Dodgers de Brooklyn. Donc, on va célébrer ça parce que honnêtement, faut pas l'oublier, cette page d'histoire. Là. On va parler de la molle. Je sais pas, aimez-vous la molle? Tu sais, la crème glacée molle. Là. Ça, c'est comme un des plaisirs de l'été. Puis, il y en a qui se préparent à ça, mais en même temps, ils sont un peu appréhensifs parce que là, ils se disent avec un couvre-feu à 20 heures, comment est-ce que je vais faire pour vendre ma molle? Fait qu'on va parler au propriétaire de Crème Boboule à Verdun. C'est comme ça que ça s'appelle. Il y a la crème glacée Boboule. Mais qu'est-ce que tu veux? Il y en a un autre, apparemment, c'était la molle à Tipper. Ouais, ça, c'est un autre commerce de vente de crème glacée. La molle à Tipper. Je ne sais pas si par chez vous, il y en avait un petit commerce là qui vendait de la crème glacée molle. Peut-être qu'il y a un nom exotique. Comme Boboule ou la molle à Tipper. Vous pourriez déjà m'écrire au 98985 pour partager ça avec nous. Puis je pourrais transmettre à nos nombreux auditeurs les trouvailles, là. Les meilleures trouvailles, les meilleurs titres, les meilleurs noms de restos à crème glacée molle de votre coin. Peu importe, là, je sais que vous m'écoutez de partout dans le monde. Luc Lavoie, bonjour. Il y en avait-tu un magasin de...
Je te surpasse, comprends-tu? Comment est-ce qu'il s'appelle? La molle à bouboule, c'est-tu?
La molle à bouboule. Hey, quand j'ai vu ça dans...
J'espère que tu n'avais pas un nom en tête.
Quand j'ai vu ça dans le journal Métro tout à l'heure, je me suis dit, oh, ça, c'est trop succulent pour passer à côté. Fait que c'est ça. Toi, dans le Bas-Saint-Laurent, à Rimouski...
Il y a quelque chose de très... Il y avait plus qu'un endroit, mais il y a un endroit célèbre qui est là depuis au moins 50 ans.
Oui.
À l'entrée de Sainte-Luce, là, qui est à peu près à 10 km de Rimouski.
Oui.
Ça s'appelle le bar laitier Achini.
Le bar laitier Achini. Bon.
Et là, quand tu vas là le samedi ou le dimanche, là,
oui,
c'est bondé. Là. Les gens viennent faire leur visite, ils vont au bar Achini, ils vont chercher leur molle, bon, ou ils vont chercher leur banana split, puis je sais plus quelle autre chose.
Ah oui, non, mais c'est formidable. Moi, quand on finissait, nous autres, de décharger une charge de foin ou plusieurs charges de foin, les journées de foin là, sur la ferme, là,
oui,
tu sais, les journées, là, tu commences tôt le matin... Puis là, tu presses ton foin là, toute la journée. Là, on finissait des fois, là, il faisait noir. Là, t'es couvert de paille ou t'es couvert de brindilles. Puis t'as travaillé dans ta tasserie. Là, des fois, il faisait au-dessus de 40 Celsius. T'as eu chaud toute la journée. Puis là, t'es rouge comme une tomate parce que t'as pris du soleil. Et là, papa, il disait, Victor, mon père, il disait, là, venez-vous-en, on s'en va à molle. Ah là, mon gars, c'était la récompense.
Mais tu sais que si t'avais eu l'esprit tordu, quand tu dis on s'en va à la molle, ça aurait pu être une Molson. Tu sais, on appelait ça de la molle aussi.
T'as raison, mais j'étais trop jeune pour boire de la Molson à ce temps-là. Alors, on va s'amuser un peu tout à l'heure en discutant de ce plaisir estival. Puis il faut se remettre un petit. Faut rêver un peu à ces beaux moments d'été parce que ça nous donne du courage pour continuer. C'est comme mettre du carburant dans notre réservoir, mon cher.
Et voilà.
Hein?
Et voilà.
Bon. Alors, allons-y avec ton exposé.
Ben là, on parle aujourd'hui encore de cette valse diplomatique entre la Russie et les États-Unis. Tu sais, c'est l'eau chaude, l'eau froide. Alors, ce matin, et il fallait s'y attendre, la Russie a annoncé qu'elle allait expulser 10 diplomates américains en réponse aux sanctions prises la veille par les États-Unis. Et elle a ajouté, la Russie, avoir recommandé à l'ambassadeur des États-Unis à Moscou de rentrer à Washington. Ce qui, en termes diplomatiques, est un peu spécial. Un ambassadeur, tu peux le convoquer. Tu peux l'expulser, mais lui recommander de partir, je sais pas ce que ça veut dire, je me souviens pas d'avoir vu ça dans le langage diplomatique habituel.
Moi non plus, mais c'est d'une certaine manière, c'est quasiment pire que de le sacrer à la porte.
Oui, c'est quasiment pire parce que ça a l'air d'une menace.
C'est ça, j'allais dire, ça a l'air menaçant.
Oui, ça a l'air menaçant. Et puis, il a dit, nous allons répondre, ça c'est le ministre des Affaires étrangères, nous allons répondre à cette mesure de manière réciproque, parlant de ce que M. Biden a annoncé, et demanderons à 10 diplomates américains de quitter notre pays. Mais tu vois, c'est pourquoi je parle d'une valse diplomatique. Du même coup, ce matin, Joe Biden lui a dit que c'était le temps qu'on commence à dialoguer. Okay? Il a dit, le président Poutine a parlé de la nécessité de normaliser les relations et d'une désescalade. Et ça, Biden a dit exactement la même chose. Il a dit, le moment de la désescalade est venu, jugeant nécessaire une rencontre bilatérale cet été en Europe. Alors, c'est vraiment l'eau chaude, l'eau froide.
Ouais.
C'est le test ultime de la puissance de l'un et de l'autre. J'espère que M. Biden va réussir à bien manœuvrer dans ça, parce que Poutine, avec tous ses défauts, qui sont multiples et qui font de lui, par certains aspects, un monstre, mais par d'autres aspects, c'est un joueur géopolitique absolument redoutable, qui a joué ses pions avec finalement peu de choses, mais qui a réussi à rendre la Russie incontournable quand on parle des questions de sécurité mondiale.
Tu as tellement raison, là. On l'a vu en Syrie, notamment, puis reparlons pas de la Syrie, là, éloignons-nous pas, mais tu as raison de dire avec peu de moyens, là, parce que, bon, l'économie russe, on s'entend là, qu'on n'est pas du tout dans la même famille, là, la même catégorie que l'économie américaine. Je veux dire, les moyens auxquels il a accès sont pas du tout... Mais il a réussi avec l'utilisation de la cyber... des cyber-pirates, hein, le cyber-piratage, là, on l'a vu avec ses manœuvres pour essayer de déstabiliser la démocratie américaine puis manipuler la démocratie américaine. Avec peu de moyens, il a réussi vraiment à devenir un joueur à nouveau incontournable sur la scène internationale.
Oui, et tu sais, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit graduellement une possible alliance entre la Russie et la Chine se développer. Par exemple, tu parles de l'intervention russe en Syrie. Ils ne sont pas intervenus à Téhéran puis en Iran, mais ils sont là, puis ils sont autour, puis ils appuient le Hezbollah, puis... Vraiment, on est obligé de lui donner ça, là, à Poutine. C'est un joueur d'échecs diplomatiques assez redoutable, merci.
Vraiment, je suis totalement d'accord avec toi.
Alors, on peut revenir à la COVID pour faire changement.
Bien sûr.
En Ontario, Bernard, ça fait mal. Écoute, je connais bien l'Ontario, j'y ai vécu, toi aussi. Écoute, il confirme aujourd'hui 4812 nouveaux cas de COVID.
Aïe, aïe, bonnet!
Jamais vu depuis le début de la pandémie. Et c'est le troisième sommet, le troisième record en une semaine. 25 décès supplémentaires.
Ils l'ont échappé complètement là-bas. Hein?
Mais complètement. Dans les hôpitaux, écoute ça, la pression là, est énorme. 1955 personnes sont hospitalisées, dont 701 aux soins intensifs. C'est pas possible. La moyenne au cours des 7 derniers jours, est à 4292. Tu sais que tous ces chiffres-là font de l'Ontario un des épicentres, un mot dont on a abusé probablement pendant la pandémie, mais c'est un des endroits les plus actifs en termes de contamination à l'heure actuelle.
Et ce que je trouve... des plus actifs sur la planète, tu veux dire?
Sur la planète Terre, oui.
Aïe, aïe.
Et les Ontariens de 20 à 29 ans continuent d'être le groupe d'âge le plus contaminé, avec 8450 cas actifs. 14 d'entre eux sont morts depuis le début de la pandémie. Et là où ça fait peur, tenez-vous bien, là, parce que jusqu'à maintenant, à chaque fois que l'Ontario a publié des modélisations puis des projections, ils ne se sont pas trompés beaucoup. Alors, des projections qui doivent être rendues officiellement publiques dans une heure, je crois, montrent qu'il pourrait y avoir plus de 18 000 nouvelles infections quotidiennes en Ontario d'ici la fin mai.
Ben voyons donc, Luc.
Et là, ils disent que pour que ce nombre tourne autour de 10 000 cas au lieu de 18 000, les mesures sanitaires devront être beaucoup plus strictes que celles qui sont en place.
Ils passeraient de 4 800, c'est le chiffre d'aujourd'hui,
oui, à 18 000 d'ici la fin mai. Et s'il n'y a pas de changement, et ils disent que s'il y a, je veux dire dans les mesures sanitaires, mais s'il y a des changements appropriés, on pourrait descendre à 10 000 cas. Pas à 2, à 10. C'est énorme.
Mais pour ça, il faut qu'ils aillent plus loin dans les mesures sanitaires. Et là, il faut voir.
Il va les annoncer aujourd'hui.
Il va les annoncer aujourd'hui. Lui qui ne voulait pas aller vers un couvre-feu du type québécois, je ne sais pas s'il va finir par s'y résoudre.
Ah ben là, ce qu'on dit, je ne sais pas s'il va aller vers le couvre-feu. Il a l'air d'avoir un problème avec ça, là, mais la réduction des heures d'ouverture des commerces, la fermeture des chantiers de construction non essentiels, ça, c'est une mesure pas mal sérieuse, là. ça figure parmi les propositions envisagées par la province. Et là, tout le monde se réveille au Canada. C'est la crise en Ontario. Le premier ministre Trudeau a annoncé le déploiement de la Croix-Rouge canadienne pour contribuer à l'effort de vaccination et avec ses équipes mobiles. Et son gouvernement, le gouvernement fédéral, va également déployer des unités de santé mobiles à Toronto et Hamilton. Et du matériel de soins de santé, notamment des dispositifs d'oxygène et des médicaments pour traiter la COVID, sera également acheminé en Ontario. Wow!
Écoute, mon homme!
Là, écoute, c'est notre voisin immédiat, c'est notre principal partenaire commercial. C'est, en fait, c'est notre allié naturel, c'est notre voisin. Écoute, je suis abasourdi.
Ah, moi aussi. Moi aussi, parce que à toutes les fois qu'ils atteignent un sommet, tu te dis, bon, ben là, ça va finir par se stabiliser, et ça ne se stabilise pas.
Non, ça continue de monter, puis ces projections-là semblent dire, je le répète, là, même s'il prend des mesures beaucoup plus sévères, on va se retrouver à 10 000 cas à la fin mai. Ça, c'est une crise. Ça, c'est une vraie crise.
Oui, bien, quand tu te compares, tu te consoles. Je te dis, puis je prends pas pour acquis que ça va durer, non. Mais aujourd'hui, si tu regardes le nombre de cas au Québec, ça reste stable.
C'est stable, oui.
Ouais, autour de 1500.
Le nombre de décès est assez faible aussi.
Voilà, exact. Ça monte, par contre, un petit peu là, au niveau des soins intensifs. Là. Une augmentation de 8. On part de 159, on arrive à 167 personnes aux soins intensifs. Mais je veux dire, quand tu te compares à l'Ontario actuellement, nous, jusqu'à maintenant, ça va quand même.
On s'en sort bien. Ça a été le contraire à la première vague, c'est nous qui y goûtons. Au moins ici, la distribution des vaccins semble, malgré tous les ratés, aller de l'avant. Le ministre Dubé était fier d'annoncer ce matin sur Twitter que 74 927 doses ont été données hier. C'est du jamais vu depuis le début de l'opération de vaccination.
C'est un record, presque
75 000. Ça veut dire que, avait 60, attends une minute, 25,1% des adultes avaient reçu au moins une dose jusqu'à maintenant pour un total de 2 145 925 doses.
OK.
On atteint désormais une moyenne sur 7 jours de 66 000 doses par jour. Alors, c'est intéressant.
J'en conviens.
Brésil, je sais, Bernard, que ça t'a marqué, puis ceux qui ont lu ça ont été marqués par ça. Écoute, au Brésil, c'est littéralement l'hécatombe. Écoute, je te lis un extrait d'un texte d'Agence France-Presse. Une odeur de diesel se répand dans le plus grand cimetière d'Amérique latine. Elle provient des groupes électrogènes qui permettent d'allumer les projecteurs pour les enterrements nocturnes face à l'afflux incessant de corps de victimes de la COVID-19. Wow. Des fossoyeurs qui travaillent depuis 30 ans dans le plus grand cimetière de San Paolo ne se souviennent pas avoir vu au fil des décennies plus d'une dizaine d'enterrements la nuit.
Il y a tellement d'enterrements qu'ils sont obligés d'enterrer le monde la nuit, c'est ça qu'on
voit? La nuit, c'est ça, oui. Et là, il n'y avait plus de véhicules, ils n'ont plus de corbillards pour amener les corps, alors là, ils prennent les autobus scolaires, puis là, on fait des enterrements. Puis il y a comme une espèce de... Tu vois, avant le premier enterrement de la nuit, ils se réunissent, je parle des fossoyeurs, en cercle autour de la tombe, et se recueillent pendant une minute, la tête inclinée et les mains derrière le dos. Alors, parfois, il y a des membres de la famille. Alors, les fossoyeurs ont développé une espèce de protocole. On demande autour, est-ce qu'il y a des membres de la famille? Non, très bien. On procède à l'enterrement. Et là, c'est une espèce de fosse commune, quasiment, rendue là.
Oui?
C'est pas mal proche d'une fosse commune. Mais il faut quand même souligner, bon, le Brésil, il goûte, puis c'est terrible. Mais souviens-toi qu'à New York, sur une des îles dans le Hudson, à un moment donné, ils ont dû faire la même chose, au pire de la première vague.
Oui, c'est vrai.
Et là, je t'ai déjà parlé, Bernard, qu'il y aurait certainement un marché noir des vaccins. Alors, on le voit. Dans un pays qui nous étonne pas trop, là, mais 4 personnes qui proposaient des vaccins anti-COVID au noir sur Internet ont été arrêtées et écrouées à Caracas, au Venezuela. Donc, on parlait de vaccins qui se vendaient entre 300 et 600 $
Sur le marché noir.
Le marché noir.
Ce qui est beaucoup au Venezuela, c'est la dèche actuellement. Là.
Ah ben oui, puis le pays a lancé une campagne de vaccination avec les vaccins russes Sputnik 5 et chinois Sinopharm, mais il a reçu moins d'un million de doses. Mais là, conformément aux souhaits, le Venezuela va produire un vaccin anti-COVID cubain. Alors, on verra ce que ça va donner comme résultat. Chez nous, on a vécu une tentative de vol de vaccins à Repentigny. une espèce d'hurluberlu qui s'est présenté puis qui a dit « Je suis mandaté, je suis dans une agence de sécurité et je dois pouvoir voir tous les vaccins. » Puis là, il y a quelqu'un qui a eu qu'à allumer puis qui a dit « Mais pourquoi tu veux voir ça? De quoi s'agit-il? » Ah, et là, j'ai une note ici, puis un papier, puis un document, puis il s'est présenté comme un représentant de l'agence de sécurité, blablabla. Bla, 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 bla. Mm. En bout de ligne, la police de Repentigny a ouvert une enquête et surtout chez Jean Coutu, dans les entrepôts, tout ça partout, chez leurs franchisés, on leur demande de faire preuve de vigilance. Ah. Et, à l'heure où on est, là, moi, je te dis, si quelqu'un découvrait assis à Montréal que pour 350-400 $ tu peux avoir un vaccin, ça se vendrait comme des petits pains chauds. Ça se vendrait à toute vitesse.
Bon, ben Luc, on va espérer qu'on n'en viendra pas là. Hein?
Je l'espère de tout mon cœur.
Et je te souhaite un très bon week-end, mon cher Luc Lavoie.
Et puis, je vais aller essayer la molle à bouboule.
Essaye la molle à bouboule à Verdun. Il faut que tu arrives avant 20 heures. Puis, il faut surtout que tu rentres chez vous avant 20 heures.
Eh oui, voilà. Hein?
Puis, on va espérer une victoire du Canadien ce soir. Hein?
On va l'espérer fort, fort, fort. Parce que je pense qu'après ça, ça va être pas mal grave.
Oui, oui.
Si on ne gagne pas.
On en parle lundi, OK?
Bon week-end, Bernard.
Salut, salut, mon gars. Absolument, bye. Absolument. Alors là, vous avez été nombreux à répondre à mon appel. Je vais vous donner les noms des commerces de crème glacée les plus exotiques du Québec, parce que honnêtement, ça m'arrive de tous les coins du Québec. Restez à l'écoute, ne manquez surtout pas ça, parce qu'il y en a des pas piqués des verres, je vous le dis.